31, chapitre 4, le pot. Il y avait 6 ânes rangés dans la cour. J'étais un des plus beaux et des plus forts. 3 petites filles nous apportèrent de l'avoine dans une auge. Tout en mangeant, j'écoutais causer les enfants. Voyons, mes amis, choisissons nos ânes, dit Charles. Moi, d'abord, je prends celui-ci. Et il me montrait du doigt. Toi, tu prends toujours ce que tu crois le meilleur, dirent à la fois les 5 enfants. Il faut tirer au sort. Mais comment veux-tu que nous tirions au sort, Caroline ? Reprit Charles. Est-ce qu'on peut mettre les ânes dans un sac et les en tirer comme des billes ? Ha ha ha, dit Antoine. Est-il bête avec ses ânes dans un sac ? Comme si on ne pouvait pas les numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettre les numéros sur des bouts de papier dans un sac et tirer au hasard chacun le sien. C'est vrai, s'écrièrent les 5 autres. Ernest, fais les numéros pendant que nous allons écrire sur le dos des ânes. Ces enfants sont bêtes, me disais-je. S'ils avaient l'esprit d'un âne, au lieu de se donner l'ennui d'écrire les numéros sur notre dos, ils nous rangeraient tout simplement le long du mur. Le premier serait 1, le second 2, et ainsi de suite. Pendant ce temps, Antoine avait apporté un gros morceau de charbon. J'étais le premier, il m'écrivit un énorme 1 sur la croupe. Pendant qu'il écrivait 2 sur la croupe de mon camarade, je me secoue fortement pour lui faire voir que son invention n'était pas fameuse. Voilà le charbon parti et le 1 disparu. « Imbécile ! » s'écrie-t-il, « il faut que je recommence !» Pendant qu'il refait son 1, mon camarade qui m'avait vu faire et qui était malin, se secoue à son tour. Voilà le 2 parti. Antoine commence à se fâcher, les autres rient et se moquent de lui. Je fais signe aux camarades. Nous le laissons faire, aucun ne bouge. Ernest revient avec les numéros de son mouchoir. Chacun tire, et pendant qu'il regarde leur numéro, je fais encore signe aux camarades, et voilà que tous nous nous secouons tant et plus. Plus de charbon, plus de numéro. Il faut tout recommencer. Les enfants sont en colère. Charles triomphe et ricane. Ernest, Albert, Caroline, Cécile et Louise crient contre Antoine qui tape du pied. Ils se disent des injures. Mes camarades et moi, nous nous mettons à brer. Le tapage attire les papas et les mamans. On leur explique la chose. Un des papas imagine enfin nous ranger le long du mur. Il fait tirer les numéros aux enfants. « 1 !» s'écrie Ernest. C'était moi.
« 2 !» disait-il.
C'était un de mes amis. « 3 !» dit Antoine, et ainsi de suite jusqu'au dernier. « À présent, partons, » dit Charles. « Moi, d'abord, je pars le premier. »« Oh, j'aurais bien rattrapé !» lui répondit vivement Ernest. « Je parie que non !» reprit aussitôt Charles. « Je parie que si !» répliqua Ernest. Voilà Charles qui tape sur son âne et qui part au galop. Avant qu'Ernest ait eu le temps de me donner un coup de fouet, je pars aussi, mais à une vitesse qui me fait bien vite rattraper Charles et son âne. Ernest est enchanté. Charles est furieux. Il tape son âne. Ernest n'avait pas besoin de me frapper. Je courais, j'allais comme le vent. Je dépasse Charles en une minute. J'entends les autres qui suivent en riant et en criant. Bravo, l'âne numéro 1, bravo, il court comme un cheval. L'amour propre me donne du courage. Je continue à galoper jusqu'à ce que nous soyons arrivés près d'un pont. J'arrête brusquement. Je venais de voir qu'une large planche du pont était pourrie. Je ne voulais pas tomber à l'eau avec Ernest, mais retourner avec les autres qui étaient bien loin derrière nous. « Hola ! Hola, bourri !» me dit Ernest. « Sur le pont, mon ami, sur le pont !» Je résiste. Il me donne un coup de baguette. Je continue à marcher vers les autres. « Entêté ! Bête brute ! Veux-tu tourner et passer le pont ?» Je marche toujours vers les camarades. Je les rejoins malgré les injures et les coups de ce méchant garçon.
Pourquoi bâtit-on l'âme, Ernest ? Cria Caroline. Il est excellent. Il t'a mené ventre à terre et t'a fait dépasser Charles.
Je le bats parce qu'il s'entête à ne pas vouloir passer le pont, dit Ernest. Il s'est obstiné à revenir sur ses pas.
Ah, bon, c'est parce qu'il était seul. Maintenant que nous voilà tous, il passera le pont tout comme les autres.
Le malheureux, pensais-je. Les malheureux. Ils vont tous tomber dans la rivière. Il faut que je tâche de leur montrer qu'il y a du danger. Et me voilà reparti au galop, courant vers le pont, à la grande satisfaction d'Ernest et au cri de joie des enfants. Je galope jusqu'au pont. Arrivé là, je m'arrête brusquement comme si j'avais peur. Ernest, étonné, me presse de continuer. Je recule d'un air de frayeur qui surprend plus encore Ernest. L'imbécile ne voyait rien. La planche pourrie était pourtant bien visible. Les autres avaient rejoint et regardaient en riant les efforts d'Ernest pour me faire passer et les miens pour ne pas passer. Ils finissent par descendre de leurs arbres. Chacun me pousse, me bat sans pitié. Je ne bouge pas. « Tirez-le par la queue !» s'écrie Charles. « Les âmes sont si entêtées que lorsqu'on veut les faire reculer, ils avancent. » Les voilà qui veulent me saisir par la queue. Je me défends en ruant. Ils me battent tous ensemble. Je n'en bouge pas davantage. « Attends, Ernest, » dit Charles. « Je passerai le premier. Ton âme me suivra certainement. » Il veut avancer. Je me mets en travers du pont. Il me fait reculer à force de coups. Au fait, me dis-je, si ce méchant garçon veut se noyer, qu'il se noie. J'ai fait ce que j'ai pu pour le sauver. Qu'il boive un coup puisqu'il le veut absolument. À peine son âme met-il le pied sur la planche pourrie, qu'elle casse, crac, et voilà Charles et son âme à l'eau. Plouf! Pour mon camarade, il n'y avait pas de danger, car il savait nager, comme tous les âmes. Mais Charles se débattait et criait sans pouvoir se tirer de là. « une perche !» criait-il. Les enfants criaient et couraient de tous côtés. Enfin, Caroline aperçoit une longue perche, la ramasse et la présente à Charles qui la saisit. Son poids entraîne Caroline qui appelle au secours. Ernest, Antoine et Albert courent à elle. Ils parviennent avec peine à retirer le malheureux Charles qui avait bu plus qu'il n'avait soif et qui était trempé des pieds à la tête. Une fois qu'il est sauvé, les enfants se mettent à rire de sa piteuse mine. Charles se fâche, les enfants sautent sur leurs armes et lui conseillent en riant de rentrer à la maison pour changer d'habit et de linge. Il remonte, tout mouillé, sur son âne. Je riais à part moi de sa figure ridicule. Le courant avait entraîné son chapeau et ses souliers. L'eau ruisselait jusqu'à terre. Ses cheveux trempés se collaient à sa figure et son air furieux achevait de le rendre complètement risible. Les enfants riaient et mes camarades sautaient et couraient pour témoigner leur gaieté. Je dois dire que l'âme de Charles était détestée de nous tous, les ânes, parce qu'il était querelleur, gourmand et bête, ce qui est très rare parmi les âmes. Enfin, Charles disparut. Les enfants et mes camarades se calmèrent. Chacun me caressa et admira mon esprit. Nous repartîmes tous, moi en tête de la bande. Chapitre 5, le cimetière. Nous marchions au pas et nous approchions du cimetière du village, qui est à une lieue, c'est-à-dire à 4 kilomètres du château.
Si nous retournions, dit Caroline, et que nous reprenions le chemin de la forêt. Pourquoi cela, dit Cécile? C'est que je n'aime pas les cimetières. Pourquoi n'aimes-tu pas les cimetières? Est-ce que tu as peur d'y rester? Non, mais je pense aux pauvres gens qui y sont enterrés, et j'en suis attristée.
Les enfants se moquèrent de Caroline, et passèrent exprès tout contre le mur du cimetière. Ils allaient le dépasser lorsque Caroline, qui paraissait inquiète, arrêta son âme, sauta à terre et courut à la grille du cimetière. « Que fais-tu, Caroline? Où vas-tu ? » s'écrièrent les enfants. Caroline ne répondit pas. Elle poussa précipitamment la grille, entra dans le cimetière, regarda autour d'elle et courut vers une tombe fraîchement remuée. Ernest l'avait suivie avec inquiétude et la rejoignit au moment où, se baissant vers la tombe, elle relevait un pauvre petit garçon de 3 ans dont elle avait entendu les gémissements.
Qu'as-tu, mon pauvre petit? Pourquoi pleures-tu?
L'enfant sanglotait et ne pouvait pas répondre. Il était très joli et misérablement vêtu.
Comment es-tu tout seul ici, mon pauvre petit?
Ils m'ont laissé ici. J'ai faim.
Qu'est-ce qui t'a laissé ici?
Les hommes noirs. J'ai faim.
Ernest, va vite chercher nos provisions. Il faut donner à manger à ce pauvre petit. Il nous expliquera ensuite pourquoi il pleure et pourquoi il est ici.
Ernest courut chercher le panier aux provisions pendant que Caroline tâchait de consoler l'enfant. Peu d'instants après, Ernest reparut, suivi de toute la bande que la curiosité attirait. On donna à l'enfant du poulet froid et du pain trempé dans du vin. À mesure qu'il mangeait, ses larmes se séchaient, son visage reprenait un air riant. Quand il fut rassasié, Caroline lui demanda pourquoi il était couché sur cette tombe.
« C'est grand-mère qu'ils ont mise là. Je veux attendre qu'elle revienne. »«
Où est ton papa ?»«
Je ne sais pas, je ne le connais pas. »«
Et ta maman ?»«
Je ne sais pas, des hommes noirs l'ont emporté comme grand-mère. »«
Mais qu'est-ce qui te soigne ?»«
Personne. »«
Qu'est-ce qui te donne à manger ?»
Personne, je t'étais nourrie.
Où est-elle ta nourrie?
Là-bas, à la maison.
Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle marche, elle mange de l'herbe.
De l'herbe?
Et tous les enfants se regardèrent avec surprise.
Elle est donc folle. Tout bas possible.
Il ne sait pas ce qu'il dit, il est trop jeune.
Pourquoi ta nourrice ne t'a-t-elle pas emportée?
Elle ne peut pas, elle n'a pas de bras.
La surprise des enfants redoubla.
Mais alors, comment peut-elle te porter?
Mais je monte sur son dos.
Est-ce que tu couches avec elle?
Oh non, je serais trop mal.
Mais où couche-t-elle donc? N'a-t-elle pas un lit?
Ben non, elle couche sur la paille.
Que veut dire tout cela? Dit Ernest. Demandons-lui de nous mener dans sa maison et nous verrons sa nourrice. Elle nous expliquera ce qu'il veut dire.
J'avoue que je n'y comprends rien, dit Antoine.
Peux-tu retourner chez toi, mon petit?
Oui, mais pas tout seul. J'ai peur des hommes noirs. Il y en a plein la chambre de grand-mère.
Nous irons tous avec toi. Montre-nous par où il faut aller.
Caroline remonta sur son âne et prit le petit garçon sur ses genoux. Il lui indiqua le chemin et 5 minutes après, nous arrivâmes tous à la cabane de la mère Thibault, qui était morte de la veille et enterrée du matin. L'enfant courut à la maison et appela.
Nourrice, nourrice!
Aussitôt, une chèvre bondit hors de l'écurie restée ouverte, courut à l'enfant et témoigna sa joie de le revoir par 1000 sauts et caresses. L'enfant l'embrassait aussi, puis il dit «
Tété nourrice !»
La chèvre se coucha aussitôt par terre, le petit garçon s'étendit près d'elle et se mit à téter comme s'il n'avait ni bu ni mangé.
Ah, voilà la nourrice expliquée, dit enfin Ernest. Que ferons-nous de cet enfant?
Bah, nous n'avons rien à en faire, dit Antoine, qu'à le laisser là avec sa chèvre.
Les enfants se récrièrent tous avec indignation.
Ce serait abominable d'abandonner ce pauvre petit. Il mourrait peut-être bientôt faute de soins.
Bah, que veux-tu en faire, répondit Antoine. Vas-tu l'emmener chez toi?
Certainement. Je prierai maman de faire demander qui il est, s'il a des parents. Et en attendant de le garder à la maison.
Ben, et notre partie d'âme, dit Antoine. Nous allons donc tous rentrer.
Mais non, Ernest aura la complaisance de m'accompagner. Continuez vous autres votre promenade. Vous êtes encore 4, vous pouvez bien vous passer de moi et d'Ernest.
Au fait, elle a raison, dit Antoine. Remontons à Anne et continuons notre promenade.
Et ils partirent, laissant la bonne Caroline avec son cousin Ernest.
Comme c'est heureux qu'on ne m'ait pas écouté. Et qu'on ait voulu me taquiner en passant si près du cimetière, dit Caroline. Sans cela, je n'aurais pas entendu pleurer ce pauvre enfant. et l'aurait passé la nuit entière sur la terre froide et humide.
C'était moi qu'Ernest montait. Je compris, avec mon intelligence accoutumée, qu'il fallait arriver le plus promptement possible au château. Je me mis donc à galoper et mon camarade me suivit. Et nous y arrivâmes en une demi-heure. On fut d'abord effrayé de notre retour si rapide. Caroline raconta ce qui leur était arrivé avec l'enfant. Sa maman ne savait trop qu'en faire lorsque la femme du garde offrit de l'élever avec son fils qui était du même âge. La maman accepta son offre. Elle fit demander au village le nom du petit garçon et ce qu'étaient devenus ses parents. On apprit que le père était mort l'année d'avant, la mère depuis 6 mois. L'enfant était resté avec une vieille grand-mère méchante et avare qui était morte la veille. Personne n'avait pensé à l'enfant et il avait suivi le cercueil jusqu'au cimetière. Du reste, la grand-mère était riche et l'enfant n'était donc pas pauvre. On fit venir la bonne chèvre chez le garde qui éleva l'enfant et en fit un bon petit sujet. Je le connais, il s'appelle Jean Thibault. Il ne fait jamais de mal aux animaux, ce qui prouve son bon cœur, et il m'aime beaucoup, ce qui prouve son esprit. Chapitre 6. La cachette. J'étais heureux, je l'ai déjà dit. Mon bonheur devait bientôt finir. Le père de Georget était soldat. Il revint dans son pays, rapporta de l'argent que lui avait laissé en mourant son capitaine et la croix que lui avait donnée son général. Il acheta une maison à ma mère, emmena son petit garçon et sa vieille mère, et me vendit à un voisin qui avait une petite ferme. Je fus triste de quitter ma bonne vieille maîtresse et mon petit maître Georget. Tous deux avaient toujours été bons pour moi, et j'avais bien rempli tous mes devoirs. Mon nouveau maître n'était pas mauvais, mais il avait la sotte manie de vouloir faire travailler tout le monde, et moi comme les autres. Il m'attelait à une petite charrette et me faisait charrier des terres, du fumier, des pommes, du bois. Je commençais à devenir paresseux. Je n'aimais pas à être attelé et je n'aimais surtout pas le jour du marché. On ne me chargeait pas trop et l'on ne me battait pas, mais il fallait ce jour-là rester sans manger depuis le matin jusqu'à 3 ou 4 heures de l'après-midi. Quand la chaleur était forte, j'avais soif à en mourir et il fallait attendre que tout fût vendu, que mon maître reçut son argent et qu'il lui dit bonjour aux amis qui lui faisaient boire la goutte. Je n'étais pas très bon alors. Je voulais qu'on me traitât avec amitié, sans quoi je cherchais à me venger. Voici ce que j'imaginais un jour. Vous verrez que les âmes ne sont pas bêtes, mais vous verrez aussi que je devenais mauvais. Le jour du marché, on se levait de meilleure heure que de coutume à la ferme. On cueillait les légumes, on battait le beurre, on ramassait les œufs. Je couchais pendant l'été dans une grande prairie. Je voyais et j'entendais ces préparatifs et je savais qu'à 10 heures du matin, on devait venir me chercher pour m'atteler à la petite charrette remplie de tout ce qu'on voulait vendre. J'ai déjà dit que ce marché m'ennuyait et me fatiguait. J'avais remarqué dans la prairie un grand fossé rempli de ronces et d'épines. Je pensais que je pourrais m'y cacher de manière qu'on ne pût pas me trouver au moment du départ. Le jour du marché, quand je vis commencer les allées et venues des gens de la ferme, je descendis tout doucement dans le fossé et m'y enfonçai si bien qu'il était impossible de m'apercevoir. J'étais là depuis 1 heure, blotti dans les ronces et les épines, lorsque j'entendis le garçon m'appeler en courant de tous côtés, puis retourner à la ferme. Il avait sans doute appris au maître que j'étais disparu, car peu d'instants après, j'entendis la voix du fermier lui-même appeler sa femme et tous les gens de la ferme pour me chercher. Il aura sans doute passé au travers de la haie, disait l'un. Ben, par où veux-tu qu'il ait passé, répondait l'autre. Il n'y a de brèche nulle part. Oh, on aura laissé la barrière ouverte. Courez dans les champs, garçon, dit le maître. Il ne doit pas être loin. Allez vite et ramenez-le, car le temps passe et nous arriverons trop tard. Les voilà tous partis dans les champs, dans les bois, à courir, à m'appeler. Je riais tout bas, dans mon trou, et je n'avais garde de me montrer. Les pauvres gens revinrent essoufflés. Haletant, Pendant une heure, ils avaient cherché partout. Le maître jura après moi, dit qu'on m'avait sans doute volé, que j'étais bien bête de me laisser prendre, fit atteler un de ses chevaux à la charrette et partit de fort méchante humeur. Quand je vis que chacun était retourné à son ouvrage, que personne ne pouvait me voir, je passais la tête avec précaution hors de ma cachette, je regardai autour de moi, et me voyant seul, je sortis tout à fait. Je courus à l'autre bout de la prairie pour qu'on ne pût pas deviner où j'avais été, et je me mis à braire de toutes mes forces. À ce bruit, les gens de la ferme accoururent.
Tiens, la voilà revenue, s'écria le berger.
Bah, d'où vient-il donc? Dit le cocher. Par où a-t-il passé? Reprit le charretier.
Dans ma joie d'avoir évité le marché, je courus à eux. Ils me reçurent très bien, me caressèrent, me dirent que j'étais une bonne bête, de m'être sauvé d'entre les mains des gens qui m'avaient volé, et me firent tant de compliments que j'en fus honteux, car je sentais bien que je méritais le bâton bien plus que des caresses. On me laissa paître tranquillement, et j'aurais passé une journée charmante si je ne m'étais pas senti troublé par ma conscience qui me reprochait d'avoir attrapé mes pauvres maîtres. Quand le fermier revint et qu'il apprit mon retour, il fut bien content, mais aussi bien surpris. Le lendemain, il fit le tour de la prairie et boucha avec soin tous les trous de la haie qui l'entouraient.
« Il sera bien fin qu'il s'échappe encore, » dit-il en finissant. « J'ai bouché avec des épines et des piquets jusqu'aux plus petites brèches. Il n'y a pas de quoi donner passage à un chat. »
La semaine se passa tranquillement. On ne pensait plus à mon aventure. Mais au marché suivant, je recommençai mon méchant tour et me cachai dans ce fossé qui m'évitait une si grande fatigue et un si grand ennui. On me chercha encore comme la dernière fois, et on s'étonna plus encore, et l'on crut qu'un habile voleur m'avait enlevé en me faisant passer par la barrière.
« Cette fois, dit tristement mon maître, il est définitivement perdu. Il ne pourra pas s'échapper une seconde fois, et quand même il s'échapperait, il ne pourra pas rentrer. J'ai trop bien bouché toutes les brèches de la haie. »
Et il partit en soupirant, et ce fut encore un des chevaux qui me remplaça à la charrette. De même que la semaine précédente, je sortis de ma cachette quand tout le monde fut parti, mais je trouvai plus prudent de ne pas annoncer mon retour en faisant hiant comme l'autre fois. Quand on me trouva mangeant tranquillement l'herbe dans la prairie et quand mon maître apprit que j'étais revenu peu de temps après son départ, je vis qu'on soupçonnait quelques tours de ma façon. Personne ne me fit de compliments. On me regardait d'un air méfiant et je m'aperçus bien que j'étais surveillé plus que par le passé. Je me moquai d'eux et je me dis en moi-même, « Mes bons amis, vous serez bien fins si vous découvrez le tour que je vous joue. Je suis plus fin que vous et je vous attraperai encore, encore et toujours. » Je me cachai donc une troisième fois, bien content de ma finesse, mais j'étais à peine blotti dans mon fossé quand j'entendis l'aboiement formidable du gros chien de garde. Et les voix de mon maître qui disait
« Attrape-le, garde à vous! Hardi, hardi! Descends dans le fossé, mords-lui les jarrets! Amène-le, viens, bravo mon chien! Attrape, attrape, garde à vous! Ouh, ouh !»
Garde à vous s'était en effet lancé dans le trou, il me mordait les jarrets, le ventre, il m'aurait dévoré si je ne m'étais pas décidé à sauter hors du fossé. J'allais courir vers la haie et chercher à m'y frayer un passage quand le fermier qui m'attendait me lança un nœud coulant et m'arrêta tout court. Il s'était armé d'un fouet qu'il me fit rudement sentir. Le chien continuait à me mordre, le maître me battait, je me repentais amèrement de ma paresse. Enfin, le fermier renvoya garde à vous, cessa de me battre, détacha le nœud coulant, me passa un licou et m'emmena tout penaud et tout meurtri pour m'atteler à la charrette qui m'attendait. Je sus depuis qu'un des enfants était resté sur la route près de la barrière pour m'ouvrir si je revenais. Il m'avait aperçu sortant du fossé et il l'avait dit à son père, le petit frère. Je lui en voulus de ce que j'appelais une méchanceté jusqu'à ce que mes malheurs et mon expérience m'eussent rendu meilleur. Depuis ce jour, on fut bien plus sévère pour moi. On voulut m'enfermer, mais j'avais trouvé le moyen d'ouvrir toutes les barrières avec mes dents. Si c'était un loquet, je le levais.
Si c'était un bouton, je le tournais. Si c'était un verrou, je le poussais. J'entrais partout, je sortais de partout. Le fermier jurait, grondait, me battait. Il devenait méchant pour moi, et moi, je l'étais de plus en plus pour lui. Je me sentais malheureux par ma faute. Je comparais ma vie misérable avec celle que je menais autrefois chez ces mêmes maîtres. Mais au lieu de me corriger, je devenais de plus en plus entêté et méchant. Un jour, j'entrai dans le potager et je mangeai toute la salade. Un autre jour, je jetai par terre son petit garçon qui m'avait dénoncé. Une autre fois, je bus un baquet de crème qu'on avait mis dehors pour battre du beurre. J'écrasai leur poulet, hop, 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 leur petit dindon, je mordais leur cochon. Enfin, je devins si méchant que la maîtresse demanda à son mari de me vendre à la foire de ma mère qui devait avoir lieu dans 15 jours. J'étais devenu maigre et misérable à force de coups et de mauvaise nourriture. On voulut, pour mieux me vendre, me mettre en bon état, comme disent les fermiers. On défendit aux gens de la ferme et aux enfants de me maltraiter. On ne me fit plus travailler. On me nourrit très bien. Je fus très heureux pendant ces 15 jours. Mon maître me mena à la foire et me vendit 2000 francs. En le quittant, j'aurais bien voulu lui donner un bon coup de temps ou une bonne ruade, mais je craignis de faire prendre mauvaise opinion de moi à mes nouveaux maîtres et je me contentai de lui tourner le dos avec un geste de mépris. Fin de la deuxième piste de la première cassette, page 41, Les mémoires d'un âne, par la comtesse de Ségur.